L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
L'Afrique dans tous ses états avec Marie-Claude Siakezak pour ce nouveau numéro. Notre fidèle Marie-Claude à la technique William. Et puis votre invité Marie-Claude.
Mon invité, voilà.
Bonjour l'invité de Marie-Claude.
Bonjour. Bonjour, donc peut-être Malika pourrait se présenter.
Malika Sanon.
Malika Sanon,
qui êtes-vous?
Oui.
Dites-nous tout.
Alors bonjour à tous. Je m'appelle Malika Sanon, je suis étudiante à la faculté de droit de Montpellier et je suis étudiante, je fais une licence en sciences politiques, je suis à ma troisième année. En parallèle de cela, je fais aussi un service civique au sein du CRIJ, anciennement appelé le CRIJ, qui est aujourd'hui Info Jeunes Montpellier. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle le Comité Thomas Sankara. Donc, qui reflète aussi mon côté engagé pour la cause des Africains, on va dire. Donc,
la justice en Afrique.
Mon côté panafricaniste. Mmh.
C'est pas parce qu'on est en France qu'on oublie le continent.
C'est ça.
Afrique. Alors Marie-Claude, comment avez-vous connu Malika Sanon?
Ben Malika, je l'ai connue, je pense que c'est surtout au travers du comité ou alors de l'association des Burkinabés de l'Hérault dont je fais partie aussi. Voilà, parce que bon, là je suis quand même une association des Burkinabés, il y a très longtemps que j'y suis. Et c'est vrai que, en plus, bon, je disais l'autre jour que, elle a de la famille, elle fait partie d'une. Sa famille, c'est une famille fondatrice de la ville de Bobo, enfin vraiment du berceau de la ville, de la vieille ville. Et puis que, bon, je connais des membres de sa famille, et puis que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de connaître son papa, que j'avais hébergé à la maison. On a vraiment bien sympathisé, et puis Malika, c'est quelqu'un avec qui j'adore échanger concernant justement tous nos sujets qui nous passionnent, parce qu'on est deux passionnariats et que souvent d'ailleurs on est d'accord, alors que je suis quand même pas aussi jeune qu'elle.
C'est pas la même génération.
Voilà, j'ai quelques générations de plus, et vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et avec qui il est vraiment très agréable aussi d'échanger, parce qu'elle a des idées solides, engagées, et puis en plus, elle a une très belle voix qu'elle met pas souvent assez en valeur, et elle a une façon, voilà, elle a un langage, une façon de parler qui est très agréable et très claire.
Alors en politique, avoir une belle voix, ça peut aider. Avoir des idées bien en place, ça peut aider. La politique, c'est un domaine dans lequel vous allez vous envisager de vous orienter?
Oui, potentiellement. D'abord parce que je suis issue d'une famille, comme Marie-Claude l'a dit, très politisée déjà dès le départ. Mmh. Parce que nous sommes une famille en guillemets royale. Mmh. Donc nous venons de la ville de Sia. Donc moi, je n'ai pas de village parce que notre ville, notre canton, c'est Sia. Donc je suis
comme moi.
C'est ça. C'est ça, exactement. Donc,
vous êtes deux sœurs en fait. Hein.
Exactement. Donc je suis descendante en fait de Zara, qui est notre ancêtre. Donc, qui est venu du Mali, à l'origine nous venons du Mali, mais aussi de la Guinée. On retrouve un peu des bobos un peu partout, donc il y en a au Mali et en Guinée-Conakry aussi. Donc vous les rencontrez, souvent y a des variantes. Hein. Donc nous, on est des Sanons, mon grand-père c'était un Sanou, il y a aussi des Tanous, donc des fois c'est...
Une lettre près.
C'est ça, et en fait... Ce qui se passe, c'est que justement, en fait, avec la colonisation, on a eu souvent des variantes. Mmh. Mais à la base, c'est les mêmes grandes familles. Mmh. Donc, nous sommes des bobos Djula, parce que nous avons établi des alliances avec les Djula aussi du Mali. Donc, nous sommes en fait, nous sommes une sous-branche des Malinké. Donc, c'est ça. Mmh. Après, mon grand-père, c'était Sami Sanon, qui était aussi un notable de la ville, qui avait fait l'école coloniale, il était enseignant, William Ponty à Dakar, qui était majeur de sa promo aussi.
Bravo.
Donc il a été ami avec des gens comme Oufoué, et tout ça, c'est la même génération, quoi. Ce sont les gens qui se sont battus pour l'indépendance aussi. Voilà.
Alors cet engagement-là de ces personnes qui vous ont précédé, elles vous ont porté jusqu'à vos études actuelles, parce que vous montrez un grand attachement à cette histoire-là, familiale, du pays, oui. Et en même temps, vous êtes là au XXIe siècle, à Montpellier, confiné ou presque, en sciences politiques. Comment est-ce que vous faites le lien, justement, entre cette histoire-là qui vous porte et votre modernité à vous, Malika Sanon ?
Je dirais que j'ai toujours été bercée entre les deux parce que j'ai quand même une famille qui était très, en guillemets, très ouverte d'esprit. Mes parents ont fait des études, mon père est doctorant, toute la famille l'est. Donc, du coup, j'ai eu plusieurs influences. Après, je dirais même que j'ai eu moins d'influence sur le plan traditionnel que sur le plan moderne parce que dès l'enfance, j'étais dans une école française. Même si j'étais à Bobo, donc l'école française André Malraux de Bobo. Après, j'ai été dans une école française à Ouaga aussi, qui était le lycée Saint-Exupéry. Donc, j'ai eu quand même des influences diverses, tout en gardant cette affiliation avec la tradition, parce que je partais très souvent voir ma grand-mère à Dlassouba. Dlassouba, qui est la plus vieille
ville. Voilà, c'est le cœur de la ville, hein, c'est la vieille ville.
C'est la vieille ville. Donc, j'ai quand même eu des... Bah, je parlais avec les oncles, les tantes, qui étaient souvent très, très ancrés, mais en même temps, qui avaient un esprit très ouvert. Donc, ils prenaient beaucoup de recul aussi. D'ailleurs, la personne avec laquelle j'ai appris beaucoup de choses, elle était métisse. Donc, c'est la cousine de mon père. Et son père, il était venu en France. Mmh. Il s'est marié en France et il est retourné avec sa femme au pays. Donc, je ne vous dis pas l'histoire. Peut-être qu'elle vous raconte. Enfin, peut-être que je vous raconterai un jour.
Ils y sont toujours un peu.
Ils sont décédés.
Ah, ils sont décédés, d'accord.
Côte à côte, dans la maison familiale, dans le caveau familial. Ils sont toujours. Elle est restée là-bas toute sa vie. Donc voilà. Et elle connaît. Elle en sait plus sur l'histoire des bobos que mon père même, si vous voulez, parce que elle a eu justement cette influence-là. Elle est bretonne. Enfin, sa mère est bretonne et son père est bobo. Donc elle parle très bien le bobo, contrairement à papa, par exemple. Et elle s'y connaît très bien. Elle a aussi fait de la politique. Elle était gouverneure sous la période Sankara, d'ailleurs. Elle s'appelle Awa Eve Sanon. Donc je dirais qu'elle m'a beaucoup influencée dans
un personnage.
C'est une bibliothèque vivante. Elle connaît beaucoup de choses.
Et alors justement, c'est d'autant plus intéressant que moi, quand je m'étais intéressée à la ville de Sia, puisque quand on m'a donné le nom, j'ai eu à cœur de savoir qu'est-ce que j'acceptais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle parle de Dlassouba et que cette ville-là, il se dit, mais je crois que c'est vrai, les colons, quand ils sont arrivés, ils ont voulu construire leur ville comme c'est des villes là-bas, très rectilignes, etc., à la colon, à la. Et ce qu'on me disait, c'est qu'ils avaient donc détruit partiellement la vieille ville, et qu'en une nuit, les bobos ont reconstruit la ville. Alors, c'est une légende que j'ai entendue, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça signe bien aussi cet esprit, quand même, ce besoin aussi de culture. Et c'est vrai, quand on va à Dlassouba, où habitait la grand-mère de Malika, il y a quelque chose qui plane là. On y est, mais à la fois, on est dans la ville et en même temps, on est dans une autre dimension encore. Enfin, moi, ça m'a touché énormément. En plus, je l'ai visité avec des anciens enfants de la rue dont je m'étais occupée, qui sont de là-bas. Enfin, vraiment, j'étais avec les gens, quoi. Mmh. C'est très, très fort. Donc, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des ancêtres comme ça ou des ascendants comme ça, ça marque. Voilà. Mmh. Et j'espère qu'un jour, si elle est toujours en vie, je ferai la connaissance de la cousine Awa Eve. C'est joli, en plus. Oui. Awa Eve, c'est très beau.
C'est en Tula et en France.
Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Mmh.
Alors, Marie-Claude, Malika, ça non, tel que je l'entends, à un parcours comme cette façon de rassembler à la fois l'histoire et d'être ici. Est-ce que c'est une femme africaine, vous connaissez, que vous en connaissez d'autres, on en a amené en studio. Est-ce qu'elle vous semble atypique ou est-ce que c'est pour vous une identité féminine que vous croisez souvent?
Les deux, mon commandant.
Merci.
C'est-à-dire que, à la fois, bon, moi, des filles comme Malika, moi, j'en vois pas mal. Elles sont quand même très modernes, elles sont très à l'aise dans leur corps, elles sont pulpeuses, il y a un côté assez sensuel, parce que justement, on fait toujours référence à ce dont on a parlé pour. D'ailleurs, j'inviterai Malika à écouter ce qu'on a dit sur les enfants et tout ça, sur les bébés et tout ça. Et donc, il y a ce côté-là que je revois, mais ce qu'elle a aussi de. Ce que, ce qui est chez elle et par moments, et c'est assez surprenant, et moi ça me ravit, c'est quand même la grande culture qu'elle a, qui est aussi une culture historique, qui est une culture politique, qui est une culture et analytique et synthétique. Et c'est en ça que j'ai du plaisir, parce qu'on ne trouve pas ça chez tout le monde. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, voilà, et je la trouve à la fois typique et en même temps atypique.
On se retrouve tout de suite après après votre pause musicale, Marie-Claude.
Voilà, donc on se refait un petit coup de classique musical malien, de musique malienne.
L'Afrique dans tous ses états, c'est avec Marie-Claude Siakezak et son invitée d'aujourd'hui, Malika Sanon. Alors Malika, on l'a vu, est une femme engagée en politique, mais en même temps qui est riche de toute cette tradition de son pays, grâce à sa famille élargie, son père, ses cousines, sa tante. Voilà, elle nous a tracé, Marie-Claude, l'histoire magnifique hein, de l'origine du pays finalement.
Tout à fait.
Alors, on évoquait, Marie-Claude, tout à l'heure, cet aspect de la femme qui est, comment dire, dans un paradoxe entre la tradition et la modernité. Comment est-ce que, je m'adresse tout de suite à vous, Malika, comment est-ce que vous entendez cela, de votre point de vue de Montpelliéraine d'aujourd'hui ?
Je dirais tradition et modernité, pour moi, c'est un peu la tradition, genre une partie de notre tradition africaine, entre guillemets. Parce que pour moi, certaines de nos traditions se sont perdues. Donc, certaines de nos traditions font écho à la modernité d'aujourd'hui. Par exemple, moi, d'un côté, je suis Bobo, et de l'autre, je suis Lobby. Le côté Lobby de ma maman, chez eux, en fait, ils ont une conception très matrilinéaire de la société. Ce qui veut dire, en fait, que l'enfant porte le nom de sa mère. Il porte le nom de famille de sa mère, mais porte le nom de clan de son père. Donc, en fait, là, on a un partage. L'enfant n'appartient pas seulement à l'homme, comme dans certaines traditions, comme par exemple chez les Moussi, où l'enfant, il appartient vraiment beaucoup plus à la mère. D'ailleurs, l'enfant, il peut hériter de sa mère, des parents de sa mère, de son oncle maternel, mais plus compliqué du côté paternel. Donc, ça montre ce lien-là qu'il y a entre l'enfant et sa maman chez nous. Et de même, par exemple, pour les rois, c'est pas le fils du roi qui prenait le pouvoir, c'était le fils de la sœur du roi. Donc, par exemple, là, ça nous montre que déjà, il y a un partage. J'aime bien ce côté, en fait, consensuel où tu as la femme d'un côté, c'est-à-dire que le descendant est issu d'une femme, mais c'est un homme. Donc, on est quand même, pour moi, il y a un certain équilibre des choses qui se perdent aujourd'hui où je trouve ça dommage de voir qu'aujourd'hui, on a quand même, en fait, certaines de nos idées, certaines de nos traditions qu'on croit être des traditions de chez nous viennent d'ailleurs, viennent... C'est-à-dire que avec aussi, parce qu'on a été influencé, on a été colonisé, on a eu beaucoup d'idées, le côté patriarcal aussi, on l'a pris aussi d'une part d'ailleurs, hein, parce que par exemple, que ce soit au niveau du christianisme ou de l'islam, il y a beaucoup de choses qui se sont imposées à nous et qu'aujourd'hui nous percevons comme des traditions, mais qui en réalité ne le sont pas.
Sont arrivées après coup.
C'est ça, parce que par exemple, je vous prends l'exemple, en tant que femme, on ne peut pas être imam. En islam, en tant que femme, on ne peut pas être prêtre.
Certaines, il y a deux ou trois femmes.
Il commence à y en avoir.
Avec la modernité, avec des changements. Alors que justement, sur le plan traditionnel, par exemple, chez les lobbies, on a des femmes qui sont prêtresses sur le plan religieux. Donc, elle a quand même une voix, parce que le prêtre ou la prêtresse a un pouvoir politique, social très important. Donc, les femmes avaient un rôle très important à ces époques-là. Et aujourd'hui, je pense que ça se perd. Parce qu'aujourd'hui, vous direz à un homme politique ou n'importe qui, un parti politique, de mettre en tête de liste une femme pour les mandats législatifs ou de voter pour une femme présidente, il vous dira non. Mmh. Alors que traditionnellement parlant, la femme avait quand même un rôle très important. De même chez les Mossi. Ce qui est le plus triste, c'est que le mythe fondateur des Mossi, c'est l'ethnie majoritaire au Burkina, c'est quand même une femme qui en est à l'origine.
C'est une princesse.
Et dites-vous bien que chez les Mossi, l'enfant appartient au papa. Mm. Au papa. Mais Ouédraogo a pris un nom Mossi. Il a pris un nom Mossi, cheval mâle en Mossi.
Cheval mâle, oui.
Alors que son père, c'était Rialé. Mm. Donc ce n'était pas un Mossi. Mm-hmm. Donc là, on voit bien en fait le paradoxe entre culture, tradition, modernité, post-modernité, enfin, voilà.
C'est très complexe.
Oui, c'est complexe et vous comprenez que ça, quand on intègre tout ça, ça fait un cerveau bien compliqué et en même temps bien clair.
Alors, je crois que Malika Sanon va revenir nous voir parce qu'elle n'a pas fini. Hein.
Oh non, mais ça c'était prévu, voilà. Et je voulais juste dire que moi, j'avais fait il y a longtemps, un travail, une communication au congrès de périnatalité à Béziers, au congrès national, sur l'allaitement maternel, et au Burkina, et je l'avais intitulé « Entre tradition et modernité ». Donc, un travail sur l'allaitement maternel au Burkina Faso. Et justement, je l'avais fait parce que j'avais bien perçu déjà un peu tout ce dont Malika parle, c'est-à-dire qu'à la fois, à un moment, il y avait eu justement un recentrage parce que l'économie était en train de manger le pays comme ça mange partout et on était en train de faire de la publicité pour le lait maternisé, etc. Et à ce moment-là, il y a les femmes, les sages-femmes, etc. On dit stop. Il y a eu des campagnes justement pour rétablir la tradition de l'allaitement qui était encore relativement bien, puisqu'on a parlé, il y a un milieu rural très important, mais quand même c'était en train d'être en danger. Donc pour voir, et c'est pour ça que j'avais appelé, et justement ce qu'elle dit c'est tout à fait ça, c'est que et en même temps ce que je voudrais dire aussi c'est que c'est pas pour rien qu'au pays on appelle les religions révélées l'islam et le christianisme, alors qu'après il y a les religions traditionnelles et elle nous parlait de la religion chez les lobbies où il y avait des femmes prêtres, etc. Donc vous voyez, voilà, tout ça pour dire que ça...
Oui. Est-ce que dans votre cursus de sciences politiques à Montpellier, vous arrivez à intégrer ces dimensions-là pour en faire... comment dire, je comprends bien qu'on ne vous enseigne pas ça à Sciences Po, je peux l'entendre, mais est-ce que vous allez pouvoir utiliser toute cette connaissance politique au profit de vos idées politiques pour le Burkina, si vous avez peut-être ces envies-là ou pas, je ne sais pas, vous allez peut-être vivre en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, que sais-je, peut-être pas au Burkina.
Oui, après, je suis burkinabé, mais je dis aussi que je suis, entre guillemets, citoyenne du monde, parce que j'ai eu plusieurs... enfin, j'ai eu plusieurs impacts sur le plan culturel. J'étais dans une école française, certes, mais j'ai quand même rencontré des gens qui venaient d'un peu partout, parce que justement, les enfants de diplomates, etc., ils mettaient tous leurs enfants dans des écoles françaises. Donc, j'ai eu beaucoup d'influence. Donc, je me dis que je suis burkinabé, certes, mais je suis un peu d'ici, d'ailleurs, de partout. Donc, et puis, ouais,
c'est pour ça qu'on s'entend, Malika, parce que moi aussi.
Oui, c'est ça. Et donc, je me dis que oui, certes, parce qu'en fait, on ne peut pas tout rejeter. On ne peut pas se dire aujourd'hui, oui, on est burkinabé, on va délaisser tout ce qu'on a appris, tout ce qui nous est parvenu, tout simplement parce qu'on est trop... On est africain, on ne peut pas se recentrer sur nous-mêmes, tout simplement parce que nos sociétés sont le produit de multiples rencontres, multiples échanges. Et qu'on le veuille ou non, ça n'a pas commencé avec la colonisation, parce que les Africains voyageaient, ils ont eu des échanges avec les autres.
Ce sont des grands voyageurs, voilà, les Africains. Commerce, grands voyageurs.
Il y a eu du commerce, donc ce n'était pas seulement la colonisation, c'est un détail dans l'histoire. Après, aujourd'hui, avec nos sociétés, justement...
Un détail dans l'histoire. Vous êtes sûr? D'autres ont dit cette phrase, ça leur a valu.
Non, quand je dis c'est un détail de notre histoire, c'est que je ne veux pas réduire l'histoire de l'Afrique à la colonisation.
Bien sûr, bien
notre
sûr.
Notre histoire, elle est bien très, sûr, très, très
elle est multimillénaire.
Elle est multimillénaire.
Oui, tout à fait. Oui.
Je ne veux pas réduire mon histoire, mon héritage à 100 ans, à 500 ans, à 200 ans, non. Je reçois ça.
C'est au-delà de
voilà,
ça.
Voilà, c'est au-delà de ça. Quand on voit qu'il y a certaines traditions qui ont quand même réussi à rester en place, et quand on voit qu'on a quand même un héritage, on a des ressources qui nous permettent en fait de comprendre quelle était notre histoire avant, je refuse qu'on me dise que la colonisation, c'était mon histoire. Non, c'est pas mon histoire, c'est
ça
une partie de mon histoire.
Voilà.
Voilà. Donc, je me dis que, par exemple, tout ce qui est principe de la démocratie, aujourd'hui, on en a besoin, parce qu'on a créé des pays fictifs, des frontières fictives.
Oui, ça, c'est vrai.
On ne peut plus, aujourd'hui, fonctionner comme on fonctionnait avant, tout simplement parce que chaque région fonctionnait de la même manière. Rien qu'au Burkina, il y a 60 langues.
C'est vrai, on a une très grande culture du Burkina maintenant, grâce à Marie-Claude.
C'est ça.
On l'a su.
C'est ça. Donc, je ne me verrais pas, par exemple, dire qu'on va... Comment on peut fonctionner, sachant chez les lobbies, ils ont une organisation très décentralisée. Chez les Mossi, c'est plutôt centralisé. Si on devait retourner au passé et fonctionner comme avant, comment on se réorganiserait, quoi? Donc, par exemple, on a besoin de la démocratie aujourd'hui. On a besoin d'élections aujourd'hui. Mmh. Donc, je me dis que ce n'est pas quelque chose qu'on peut rejeter. L'enseignement que j'ai eu aujourd'hui ou que je suis en train d'avoir aujourd'hui, la formation que j'ai aujourd'hui, elle va me servir. Peut-être qu'on ne peut pas forcément tout garder. Mais je me dis que c'est quand même une bonne base qui peut nous permettre à nous, Africains, d'avoir en fait notre propre réflexion.
Absolument.
C'est pas parce que j'ai été éduquée dans une école française, que j'ai reçu une éducation à la française, que je ne peux pas l'adapter au contexte local. Je pense que c'est le plus important et ça, c'est très possible de le faire pourvu qu'on ait de la bonne volonté de la part des gens qui travaillent avec nous. Parce que même si moi je veux, je ne suis pas la seule, je ne peux pas décider toute seule.
Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Il va falloir coordonner.
Oui, mais je dois dire quand même, pour parler de l'école française, notamment celle le lycée de Ouaga, je ne le connais pas bien, mais celle de Bobo, elle est quand même très respectueuse de la culture. Enfin, c'est d'accord, parce qu'il y a le programme français, etc., mais elle est quand même très respectueuse. C'est pas quelque chose qu'on vit complètement à part, avec des parents qui sont à part. Non, parce que moi, j'ai pas mal d'amis qui ont mis leurs enfants, même pas tous, mais voilà. Donc, ce que dit Malika, c'est que quand même, il y a une liberté aussi, même à l'intérieur d'un enseignement qui est voilà, français.
Absolument.
Éducation nationale française, voilà.
On va devoir se quitter, Malika Sanon et Marie-Claude Siakezak. Alors, vous nous avez préparé une belle finale musicale, Marie-Claude.
C'est Roca. On avait passé Victor Démé tout à l'heure.
On a passé Victor Démé
L'autre fois. L'autre jour, je me perds dans le temps. Et là, on va prendre... C'est Roca Traoré, qui a une très jolie voix.
Oui, Roca Traoré.
Que j'aime beaucoup. Alors, c'est une malienne aussi. Je suis désolée. Il faut que je trouve des musiques d'un peu partout, quand même. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a tellement de la belle musique malienne aussi. Et donc, le titre, c'est Mounaïssa. Voilà.
On écoute et on se quitte et au revoir.
Oui, on se quitte hélas et à bientôt, à très bientôt à tous.
Dieu saint.